Coco Beware.
Non,
ça
faisait bûcheron, étant donné que notre prochain invité personnifie justement un bûcheron.
Ben, c'est un bûcheron.
Paul Leduc, allô?
Salut!
Ça va?
Ça va, gang? Ça va?
Salut, Paul!
Salut, Paul!
Hey, Paul, je veux juste te dire, c'est Marc Blondin, là. T'as Pat Laprade, t'as Sylvain Grenier, t'as Patrice de Ref Maltais, t'as Meumur, t'as Fesneau. Fait qu'on est une gang à te souhaiter la bienvenue au TOW Radio Show.
Yes, sir.
Deux sur six, ils ont de la crédibilité, c'est quand même pas si pire.
Ouais.
Merci.
Puis ils ont pas de micro.
Paul, je peux pas passer sous silence ta longue et fructueuse carrière. Tu m'as écrit personnellement sur mon Facebook en me disant que t'étais aucunement d'accord avec les dires de Sylvain Grenier il y a deux semaines. Et puis là, on est en train de faire notre liste puis on se rend compte que je pense que Sylvain Grenier a légèrement raison. Est-ce qu'il y a plus que 10 bons lutteurs, Paul?
Au Québec.
Oui.
D'abord, tes 10 bons lutteurs, Sylvain... C'est qui
veut mettre
over?
Gilles. Voyons, pourquoi je t'appelle? Excuse-moi. Paul, moi, premièrement, bon lutteur, c'est peut-être que je me suis mal exprimé. Il y a plein de bons lutteurs, il y a plein de bons petits athlètes. Mais je veux dire, dans le top, là, que demain matin, là, si on part un TOW ou la FLQ à TV, faut mettre les top 10 guys au Québec. Bon, on est rendu à 8-9, là. Mm-hmm. J'essaie de voir alentour. Il y en a plein qui auraient besoin d'un petit peu de soutien. Ça, je suis d'accord. Il y a plein de bons talents qui sont bruts, qui restent à raffiner. Mais des prêts, là, qui sont prêts à demain matin, si WWE appelle puis il leur manque un gars, fill in, il n'y en a pas beaucoup.
Bon, là, je vais m'expliquer d'une autre manière. À notre époque, là, disons, dans deux ans de... Parce que je travaillais dans l'office avec Johnny.
Oui.
Dans deux ans, là, on passait à peu près 140 ou 150 lutteurs. Parce que là-dessus, t'as le jobber, là.
Oui.
Mais notre roster permanent à nous autres, c'est 5-6 gars que ça te prend. That's it.
Je suis d'accord avec toi.
5-6 gars, pas plus, même pour Funk à Amarillo, au Texas, là. T'as quatre gars, là,
ouais. T'as raison.
Quatre gars. Mais on avait bien des petits jobbers un peu partout qui venaient. Puis quand on manquait de jobbers, on appelait Jack Tenney à Toronto.
Ouais.
Il nous envoyait un autobus. Que... Ah oui, on commençait à 9h le matin, on sortait de là à 11h le soir. Mais tu sais, Sylvain, comment ça marche.
Ouais.
Mais faut pas oublier une chose aussi, Paul, c'est que dans ton temps, dans ces années-là, dans les années principalement 70, ça marchait encore qu'il y avait un gars au top contre un jobber, puis c'était souvent des matchs comme ça. Aujourd'hui, avec les Raw et même avant ça avec Nitro, la WCW nous a habitués de voir deux bons lutteurs s'affronter, et c'est la même chose aussi avec TNA maintenant. Donc
sur les show, il n'y avait pas aucun jobber. C'était les gars du roster qui s'affrontaient entre eux autres. L'histoire était créée alentour de ça.
Paul, on va te nommer des noms. On a fait une bébé liste tantôt. On a parlé de Frankie the Mobster, Kevin Steen, El Generico, Drew. Les quatre premiers, on a comme bloqué en se disant est-ce qu'il y en a d'autres?
Frankie the Mobster, oui. Steen, oui. Generico, il était à 5h du matin, il était avec son père dans la porte, il attendait que le gym rouvre. Tu sais, c'est des petits gars. Drew Onyx, je suis pas sûr qu'il pourra suivre tout le monde. Prophète.
Ouais. Ça, on avait une discussion, on n'était pas sûr de le mettre sur la liste.
Parlez-vous des super heavyweight ou...
On parle de tout.
On parle de tout.
J'ai même Serge Rochon que j'ai rajouté pendant la pause sur ma liste, qu'il a fait un match extraordinaire pour moi TOW.
En fait, on en a 10, Paul, il y en a deux qui ont pris leur retraite là-dessus, c'est ça va pas bien.
Il y a PCO puis Serge Rochon.
Jake Matthews, qui est pas pire.
C'est vrai, on y a pas pensé à Jake, c'est vrai.
Ouais, il bon. Mathieu, ça va être prêt. Il y a des gars qui ne lui manquent pas. Hein?
C'est ça, je suis d'accord avec toi, Paul.
Ouais, c'est ça qu'on a dit tantôt, Paul, qu'il y avait beaucoup de gars qui étaient sur le bord ou qui étaient, s'ils continuent leur cheminement comme ils l'ont commencé, que c'était pour arriver. Mais là, on parle de présentement, là, le 29 novembre, aujourd'hui, qui serait prêt? Là? Alex Silva, Paul, es-tu d'accord?
Ben oui, Alex Silva, c'est sûr.
Darko,
oui. Oui. Dans les gros gars, là, c'est plus...
C'est plus difficile, il n'y en a pas.
c'est plus difficile, mais je veux dire, c'est plus facile driller un gros gars que driller un flyer. Là.
Donc, est-ce que Québec est en train de se construire une zone de jobber?
Oui.
Wow, moi, je suis pas d'accord là-dessus. Ouais. Ça a rien à voir avec jobber, avec des jobbers.
Non, mais dans le sens, qu'est-ce qu'on veut dire, c'est que on a plein de bons petits talents, mais il y en a pas beaucoup. Puis c'est pas parce que j'ai une école de lutte que je suis ça, mais il y en a pas beaucoup qui donnent l'effort pour monter au deuxième niveau. À part Silva, là, j'en connais pas gros qui a conduit au Kentucky ou bien en Floride.
Stain Generico,
ils sont
quasiment là-bas à temps plein. Mais tout ce que je veux apporter, Paul, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, parce que je sais que tu vois beaucoup de choses aussi sur l'internet. La grosse différence entre le Québec et l'Ontario et les États-Unis, c'est qu'en Ontario et aux États-Unis, on voit souvent des gars qui sont pas nécessairement des 6 pieds 4, mais qui sont en shape. À 5 et 9, 5 et 10, ils ont une shape, ça paraît. Ils sont en forme, ils ont des abs. Ici au Québec, souvent le même talent à 5 et 9, 5 et 10 lutte avec une camisole noire parce qu'il veut pas se montrer pas de
t-shirt. Puis des jogging, puis des running.
Okay, Paul, tu le sais, t'as eu la FLQ pendant combien d'années et tu le sais, des talents comme ça, il y en avait beaucoup, je pense.
Mais regarde, quand je vous parle des heavyweights, Joe Leduc, quand il a commencé, avait 6 heures d'entraînement. À tous les soirs, on lui montrait une nouvelle prise dans le dressing room, là.
Ouais.
C'est comme ça qu'a fait, qu'a mangé. Il n'a pas mangé son pain noir, il a évolué de show en show. On lui montrait une nouvelle affaire, il y avait 6 heures d'entraînement. On lui avait montré comment tomber, puis comment donner un body slam à un gars. Mais là, j'ouvre une parenthèse, c'était rien que du strong stuff.
Ben, ouais.
Strong stuff, là, t'as pas besoin de. Tu sais, de vendre des 360 et des 450. Là.
Paul, écoute, c'est exactement ce que Sylvain a expliqué hier à son école de lutte. On n'a pas besoin de savoir 10 mouvements, 6 suffit pour mettre quelqu'un over.
Je suis d'accord.
J'espère que t'es d'accord, toi, que l'as dit hier.
Ouais. Comment ça tu sais ça?
Ben parce que c'est ce qu'il vient de dire. Tu vois bien que t'écoutes pas, Gagné.
J'écoute pas, je lisais. On vient d'avoir un message sur Facebook qui nous disait que même ceux qui sont pas totalement prêts, ben il faudrait les mettre à TV pour les rendre prêts. Mais ça marche pas comme ça, mon ami qui vient de nous écrire, Sam Dux.
Smom Dax est promoteur à l'IRNB.
Parce que si on réussit un jour par un miracle que Marc gagne à 6,49 puis on a notre show de TV, faut que ça soit. On peut pas échouer, là. On n'a pas 3 semaines d'essai.
Je peux-tu rajouter, ça peut être l'automax aussi.
Ouais, aussi.
C'est exactement, je suis d'accord avec toi, Sylvain, Paul, je sais pas ce que t'en penses, toi aussi. Moi, ce que je pense, c'est que si on a une émission de télé demain matin, il faut prendre les gars qui sont prêts. Ceux qui sont pas encore prêts, ben, on attendra qu'ils le soient parce que t'as pas une deuxième chance. Quitte à aller chercher du talent du nord-est des États-Unis, de l'Ontario, pour justement remplir une émission avec du talent qui est prêt à être montré à la télévision.
Paul, on va continuer avec la liste qu'on a fait. Moi, j'ai rajouté Handsome GF. Après ça, PCO, Sylvain Grenier a sorti, puis lui, Fisto.
PCO, Sylvain. Moi, je rentrais à Pee-Wee là-dedans. Il manque pas grand-chose à Pee-Wee.
Oui, c'est vrai.
Ben, tu vois, c'est ça qu'on dit, c'est il manque pas grand-chose, mais le mot manque est là-dedans.
Là où ce que c'est que je suis d'accord avec Sylvain, c'est que ça il manque de coaching.
Je suis d'accord.
Gros qui le coach, c'est des petits défauts. La plupart des fédérations, les gars se lèvent du mauvais pied, ils font des criss-cross, et quand ils se lèvent, ils sont même pas en position pour faire le coup. Tu sais, c'est...
Ouais, mais Paul...
Faut que le gars, tu fasses ton match, puis tu fasses le match du gars.
Je suis d'accord, mais Paul, gars, c'est le problème. Ils n'ont pas personne pour c'est... prendre, à part moi qui essaye de te donner un peu, puis j'ai pas vraiment le temps. Puis c'est pas parce que je suis le meilleur au monde, c'est parce que j'ai appris des meilleurs au monde.
Ouais.
Puis malheureusement, les gars au Québec, ils ont, moi je trouve là, parce que j'ai voyagé pas mal en Europe, puis là plus dernièrement aux États-Unis puis tout. Puis je trouve que les gars indie ils ont un petit peu la grosse tête parce que c'est des gros poissons dans des petits pots. Fait que le gars du Saguenay, le meilleur au Saguenay, ben il se pense prêt pour la WWE. Le meilleur de la WWE.Q, il se pense le meilleur là. Le gars de Pointe-Saint-Charles se pense le meilleur à Pointe-Saint-Charles.
OK. Vas-y, Paul.
T'as appris d'un bon, toi, là, Dory Funk, là. Tu sais, j'ai lutté contre lui, là. C'est d'un bon, c'est...
Ouais, mais moi, j'ai été chanceux. J'ai Rocky Johnson, la WWE m'a pris sous son aile. Mais le problème, c'est qu'il y a des ressources, puis les gens, moi, je vais te dire, j'ai fait un speech d'une heure à mes élèves hier, ouais. Ben, je leur ai dit, moi, la seule chose que je peux faire pour vous autres, c'est vous amener Vince McMahon, puis vous le présenter, il va vous serrer la main, puis le reste, c'est quand il va me dire, OK, Sly, amène tes gars 2 minutes dans le ring, montre-moi qu'est-ce qu'ils peuvent faire, puis premièrement, la première chose qu'ils vont faire, c'est enlever leur chandail. Puis là, j'ai regardé mes élèves, j'ai dit, à part Genesis, y a-tu quelqu'un qui veut s'enlever son chandail aujourd'hui devant Vince McMahon? Fait que, y a des choses qu'on peut pas faire pour eux. Il faut comprendre que c'est du show business. Puis dans le show business, tu fais partie du show. Ben, ton personnage, ton costume, ton look, ton parler, tout y joue.
Un autre aspect aussi que moi j'ai trouvé, c'est que les lutteurs, pour s'améliorer, il faut que quelqu'un leur dise qu'est-ce qu'ils font de pas correct. Et non seulement les lutteurs sont pas entraînés, mais au Québec, il y a beaucoup de bookers, il y a beaucoup de scripteurs, beaucoup de promoteurs qui ont pas l'expérience nécessaire justement pour, une fois que le lutteur rentre au vestiaire puis qu'il a fait un match où ça a vraiment mal été, de s'asseoir avec le gars puis de lui dire qu'est-ce qu'il a fait de pas correct. Donc, on a un gros besoin de coaching, non seulement au niveau des lutteurs, mais au niveau de ceux qui sont en charge de ces promotions-là.
Mais ça,
les gars, on va laisser parler notre invité, s'il vous plaît. Vas-y, Paul.
Ouais. La plupart des gars, là, moi, là, mon fan à moi, là, des fois, je m'assoyais dans le vestiaire, là. Je lui posais des questions. C'est quoi un booker, un matchmaker? Dans notre temps, on appelait ça matchmaker. C'est quoi le promoteur de l'office? C'est quoi le promoteur de l'office? Les gars, ça va pas la différence entre un promoteur, un lutteur et puis un booker.
Hey, le monde, là, non, Paul.
Il peut même pas très bon.
Paul, on l'a vu à TV, à Canal D. Il y en a qui savent même c'est quoi la différence entre un comeback, la heat, le heat spot, le shine.
Le false comeback, tout ça. Ils apprennent pas ça.
Mais non, mais il y a personne pour le montrer.
Non. Moi, je peux-tu rajouter de quoi?
Oui, vas-y.
Moi, je vous écoute parler, là, vous avez raison, mais ce que vous oubliez, c'est que les lutteurs au Québec, ils se pensent trop bons.
Ouais.
Oui.
Fait que oui, il n'y a pas personne pour leur montrer, mais ils sont pas ouverts.
Ben
combien que j'en ai, moi, que j'ai su qu'elle est à l'école de Sylvain ou n'importe quelle école, puis parce qu'ils sont, comme tu disais tantôt, Slayer, champion à Pointe-Saint-Charles ou n'importe où, ils n'ont pas besoin. Mais les gars, si vous voulez aller au top, puis vous voulez vraiment être performant, mais Seigneur, acceptez de vous faire dire vos défauts,
acceptez
vos qualités
aussi.
Acceptez la critique. La critique, puis acceptez de vouloir devenir meilleur.
Ouais, tu as deux niveaux dans la lutte professionnelle. Quelqu'un qui veut faire carrière, voici les sacrifices moi, que je pense qu'il doit faire pour vraiment essayer de réaliser son rêve ou essayer d'aller au bout de son rêve. Tu as le côté athlétique, tu as le côté culturel. Dans le côté athlétique, là, c'est conditionnement physique. Dans notre temps, on était obligé, avant de commencer notre cours de lutte, de passer au conditionnement physique. Mm-hmm. Les techniques de prise, les techniques de... Chaque prise est une contre-prise. Tu prends une prise sur un gars, là, promène-toi dans la fédération, là, il n'y a pas personne qui sait la contre-prise. Il se tortille un petit peu, puis...
Mais ils sont capables de sauter à travers trois tables, par exemple.
Parce que t'as une prise, t'as une contre-prise qui est très élégante pour sortir. Vois-tu? Mais ils ne le savent pas. Puis la protection, comment se protéger pour protéger son adversaire? Les cascades avancées en mouvement. Vois-tu?
La base, Paul.
Ouais, puis le côté culturel, Ben, c'est technique de mime. Les bons mimes font des bons lutteurs.
Ouais.
L'expression corporelle, c'est de l'art, la lutte. C'est pas la boxe qui est de l'art.
C'est du théâtre extrême, mon Paul.
Ben, et voilà.
Hey Paul, il y a un auditeur sur Facebook qui nous demande, puis écoute, désolé de te mettre sur le hotspot comme ça, mais dans la liste de ceux que tu considères, Carl Le Duc.
Carl Le Duc, si arrêtait Mathieu, il sera là aujourd'hui, là, mais qu'est-ce que tu veux? La maturité, tu peux pas. Ça s'enseigne pas.
Mais si
tu
enlèves ce problème-là, est-ce que Carl est considéré comme un des top 5?
Ben, c'est frère que ça, mais Carl aujourd'hui, il a une très bonne job. Dans un sens, de la manière que ça s'en va, la lutte professionnelle, là, ça va être les 4, tu vas avoir 4, 5, peut-être 6 gars de McMahon va garder, qui va prendre soin. Les autres, à toi, ça va faire 2-3 ans. Ouais. Ça va changer continuellement. Parce que t'es obligé de revenir à la base, de feeder ton roster.
Ouais. Mais dans le fond, c'est la même chose, Paul, que tu disais qui était dans le passé. T'en as besoin de 4, 5, 6. Les autres, ben, ils gravitent autour, puis c'est comme ça. Ça n'a pas changé?
Non.
Mais je pense que la WWE est plus grosse que John Cena, est plus grosse que The Rock. L'événement culturel, l'événement sportif, peu importe comment on veut l'appeler, le show WWE est plus important que qui est à l'intérieur, parce que je pense que WrestleMania peut se vendre sold out avec The Miz dans le main event, ça dit tout.
Je pense que Hulk Hogan et peut-être Stone Cold Steve Austin ont, ouais, à un moment donné été plus gros que leur sport.
The Rock aussi, à un moment donné.
Ouais, The Rock aussi, mais
moi, peut-être un 5 minutes. Là,
on n'en voit plus de ça.
Paul, avant de quitter, quel est le meilleur conseil que tu peux donner à un Handsome GF, Pee-wee, Thomas de Pepe-Dubois, Mathieu Saint-Jacques?
Ben, tu vas te développer, il y a seulement qu'une manière de te développer. Pour qu'il lutte à tous les soirs.
Est-ce que tu conseilles les gens d'aller dans les écoles de lutte?
Oui, s'ils veulent avoir un fine-tuning, on va prendre juste le gars de Québec, là, puis oui, là, aussitôt qu'il a commencé à vouloir, moi, je l'ai eu à FFQ. À vouloir aller réaliser son rêve. Puis là, tu parlais à ce gars-là, là, c'était un malade de la lutte. C'était un gars qui il en mangeait, il venait les yeux tout à l'envers. Et ce gars-là a fait des progrès, je l'ai vu l'année passée. Moi, je l'avais eu en 2004-2005.
Ouais.
Je l'ai vu l'année passée. Ce gars-là, il a évolué. Mais il faut avoir de la détermination, puis il faut faire les secrets et les sacrifices. Parce que où est-ce que c'est que le jeune qui met le pied là-dedans, quand il rentre là-dedans, ah, c'est un show, c'est off, c'est ça. Tu sais, à mon époque, là, on savait aussi que c'était un show, mais si on aurait dit ça devant notre instructeur, on aurait eu une bonne garde-note. Ça...
Ouais. Paul, je veux te remercier d'avoir... Ben, Pat, donner un commentaire.
Ben, en fait, je voulais juste dire, Paul, pour compléter ce que tu disais, que souvent, ceux qui vont mieux se développer, ça va être en anglais, ce qu'on appelle des « students of the game », des « students », des étudiants des étudiants de la lutte, ceux qui vont justement en manger, en regarder, puis qui vont tout faire leur nécessaire, justement, pour arriver à leur but.
À Calgary, je ne sais pas si Vin, si t'as été à Calgary, mais à Calgary, là, le gars, il embarque pas dans le ring avant 6 mois. Peu importe l'équipe de lutte qu'il va faire chez Matt, là, il embarque pas dans le ring avant 6 mois. Imagine-toi.
Écoute, moi, la seule chose que je peux montrer, Paul, c'est ce que j'ai appris. Et, et moi, au début, qu'est-ce qu'on montre, c'est la base. Puis, mais moi, ma force, c'est que les gars soient capables d'être prudents un envers l'autre. Puis essayer de les inculquer un petit peu de psychologie de la lutte pour qu'ils soient capables d'en faire plus avec moins. Puis qu'ils soient capables de faire ça longtemps. Puis s'ils veulent percer, ben je vais pouvoir les aider. Je vais leur dire quoi faire. Je vais leur faire le programme d'entraînement. Je vais leur faire leur diète. Mais sur 500, combien qu'il y a lutteurs au Québec? 200?
Non, à peu près 500.
500. Mon école, on a 15 dans les grosses journées. Alors,
dans les grosses journées, oui. Paul, je veux te remercier beaucoup d'avoir pris le temps de nous jaser ce soir. T'es le bienvenu quand tu veux. Si tu veux venir en studio, tu veux rappeler, fais-nous le savoir.
Ça me fait plaisir et puis salut tout le monde.
Merci,
salut,
mon Paul. Bonne nuit.
Merci beaucoup. Merci, Paul.
Salut, Paul.
Bye.
C'est incroyable, Patrice. C'est un débat qui tombe à l'eau.
Ben un débat qui tombe à l'eau.
Oui, tout le monde est d'accord avec
moi. Tout le monde est d'accord là-dessus.
Ben oui, parce que tu sais, dans le fond, où, si tu regardes ce que Paul a dit, il a raison quand il dit « il manque que ».
Oui,
mais on l'a tout dit, ça, « il manque que ». Fait qu'on est tous d'accord, puis si tu regardes ça, ce que j'ai dit, ce qui se passait v'là 20 ans, v'là 30 ans, c'est encore ça aujourd'hui.
Ouais. Mais là, vous savez qu'il y en a qui boucanent à la maison, là.
Ah, ça se peut, mais écoute, on va aller à la pause publicitaire.
Il y en a qui sont en sueur.
Il y en a qui fument.
Ça fait 8 ans que je vis avec ça à chaque fin d'année.
Les gars, on attend 2 minutes. On revient dans un instant. Vous écoutez le Théo
Bovier Radio Show. Oublie pas, il y a l'entrevue que j'ai faite avec Abyss.
Avec Abyss.
Y a-tu la tune de Coco Beware venant de la pause?
Hey, c'est sharp, ça.
On a-tu Coco Beware en onde?
Coco Beware dans le parking?
Non, c'est pas Coco, c'est son oiseau.
Il est mort, Frankie.
Attends, ce que j'ai ici... quelque chose qui est proche de Coco Beware. C'est que ça dit, Coco Beware?
King Tonga?
Non.
Pas Jake the Snake.
Yeah, hey, Jake the Snake. Vous êtes bons, les gars, vous êtes bons.
Sur les ondes de CJLV 1570, c'est l'émission TOW Radio Show, en compagnie de Patrice Valtet et Marc Blondin. Pour nous joindre, faites le 450-680-1570 et de l'extérieur sans frais, 1-866-895-3142. Voici un message amusant. Le monde de Monsieur Fun est une entreprise qui œuvre dans le domaine de l'animation depuis 1984. Vous êtes à la recherche de services pour vos événements des fêtes de Noël? Que ce soit un DJ, un animateur, soirée thématique, fête d'enfants ou autre, le monde de Monsieur Fun saura vous servir. Il reste encore quelques disponibilités pour la période de Noël, mais faites vite. 1-800-66-LE-FUN, 1-800-665-3386. Le monde de Monsieur Fun au mfun.com.
Ici DJ Mike Charlebois. Je vous invite à ma soirée karaoké du dimanche soir à la brasserie 4040, coin Jean Talon et Pinneuf à Montréal. La soirée débute à 22h et à minuit, nous diffusons à la radio un concept unique en Amérique du Nord. Venez chanter à la radio karaoké tous les dimanches. Pour plus de détails, 514-926-7500.
Vous êtes à 1570 Laval et au 1570.ca.
Le Pink Paradise du 117 boulevard des Laurentides à Laval pour éveiller vos sens. Le bar érotique voté numéro 1 dans la grande région de Montréal vous accueille. Du lundi au vendredi dès midi et le week-end dès 20h. Vous serez comblé de l'ambiance, mais surtout par le charme des demoiselles du Pink Paradise. Jusqu'à 30 demoiselles pour vous chaque soir. Visitez-nous au www.pinkparadise.ca ou encore mieux, une visite au 117 boulevard des Laurentides à Laval et vous serez comblé. Le Pink Paradise, la paire qui vaut le détour.
This is the phenomenal one, AJ Styles, and you're listening to the TOW Radio Show.
Coco Beware!
Non, c'est pas Coco Beware.
Non?
What you gonna do, brother? What you gonna do when the Hulk Hogan went wild on you?
Tu l'as pas pente.
Moi, j'ai assez hâte que quelqu'un explique à Sylvain Grenier. Faut pas que tu cries dans un micro à un pouce du micro, Sylvain. Faut que tu restes
écoute,
comme ça.
J'ai parlé des micros toute ma vie, puis je continuerai encore.
Ben, en tout cas...
On est content que t'aies parlé de ton orientation sexuelle ici.
Bref, Hulk Hogan...
Moi, j'en ai une orientation, hein, Blondin?
Ben,
toi, tu fais flusher à toi 3 mois tes orientations.
Puis toi, ça va bien d'abord?
Moi, ça va
on l'a dit, slide. Toi puis moi, on n'est pas prêts à parler du côté des femmes.
ça va bien. Non, on dirait que je suis tes traces, puis ça me fait peur.
Hey, parlant de ça, ton ex m'a envoyé sur Facebook une photo de nain de jardin. Puis oui, tous les nains de jardin avaient un chapeau rouge, la même couleur que ses cheveux.
Donc, débat intéressant. Ça
non, c'était pas un débat! Arrête!
Mais non! Écoute! Je pense que la réalité nous déçoit.
L'absence de débat est intéressante.
C'est ça.
Ouais, la réalité nous déçoit, mais là, comme je disais avant la pause, on veut pas être méchant avec personne. Mais là, si les gars qui promotent des shows, Mumur est dans place, c'est-tu ton frère, lui? Ah, c'est ton père!
C'est Moisy. On l'a rabaissé ce soir.
Écoute, on est des promoteurs. Pis c'est pas pour être méchant, on rabaisse pas personne. Il y en a une méchante gang qui sont pas loin, puis qui pourraient, puis que s'ils veulent venir, je vais les aider s'ils ont besoin de conseils. Mais il y en a une méchante gang qui se pense...
C'est ça.
Over.
C'est ça.
Notre absence de débat aussi crée des remous sur Facebook. Là, je reçois des messages d'auditeurs, puis il y en a un qui me dit que, justement, à force de dire que la lutte est morte, c'est ça qui démotive les gens à vouloir, à ne pas vouloir s'investir. Et ben je dois dire que vraiment, je suis pas d'accord avec que le problème présentement, c'est pas qu'on dit que la lutte est morte, le problème, c'est qu'il y a pas d'argent à faire avec ça. C'est ça le plus gros problème présentement. Si tout d'un coup, il y aurait une grosse promotion de lutte au Québec, que le talent local pourrait grandir et dire hey, moi je veux faire partie de ça, puis il verrait un salaire en bout de ligne. C'est sûr que présentement c'est pas intéressant.
Parfait.
Parce que ça prend, écoute, quel Québécois, il y en a combien de Québécois dans les 10 dernières années à part toi qui a été à WWE?
Mais ça veut dire moi puis Marc demain matin,
Marc et moi qu'on dit,
moi puis Marc, on achète, on donne une claque dans le dos à tout le monde, on dit tiens, mettez vos rings au rencard, on va s'occuper de la province pour un an.
Oui.
Mais là, on est-tu d'accord qu'il y a 500 lutteurs qui viennent de perdre leurs activités du week-end, là?
Oui, dans cette fiction-là, là, oui.
Mais je vous jure que si on prend les meilleurs qu'on a, puis on réussit à faire des personnages puis un show, il y aurait de l'argent à faire avec ça. Mais on peut pas faire vivre 500 lutteurs, je vous dis tout de suite.
Ce que je veux dire par
ça
là...
Ça prendrait un camp d'entraînement.
Oui, on pourrait tout faire ça, il y a pas de problème. On a les facilités pour le faire,
Excuse-moi, Patrice, mais ce que je veux dire par là, c'est que le gars qui fait 6 et 5, puis qui a vraiment une stature, là, présentement, lui, là, la lutte, ça l'intéresse pas, parce que il voit pas un 5 de piastres au bout de la ligne. Il va faire d'autres choses de sa vie.
Écoute, là, on l'a dit l'autre jour à la radio. Combien qu'il y a de lutteurs dans le monde qui gagnent leur vie? Il y en a 100. Combien qu'il y a de joueurs de hockey? T'as plus de chances d'être dans les nationales de hockey puis jouer pour le Canadien en finale de la Coupe Stanley au Centre Bell devant tes parents que d'être lutteur.
C'est la grosse différence avec il y a 20 ou 30 ans où ce que les gars, justement, pouvaient espérer en faire une carrière. Puis c'est peut-être pour ça que les gars qui ont une base de lutte amateur, par exemple, vont se tourner vers les combats ultimes, vers le UFC, où ce que là, ils ont peut-être une chance de faire de l'argent.
Mais question, UFC, là. T'as une minute. Moi, ils me font rire, les gars, là. Il y en a un de mes chums, il va se battre en fin de semaine, là. Je me suis fait offrir un combat, là. Les gars, ils se font payer 1000 puis 2000 pour manger des volées,
c'est pas
là.
Tout le monde,
c'est
aux
4 mois. Oh, non, ça,
là,
c'est bien payé.
On parle
là.
Au Québec. Moi, je te parle de UFC. Là.
Ouais, non,
UFC,
mais là, on a un show de lutte, les gars.
Comment
ils
gagnent leur vie dans
UFC? Les gars, OK.
Mais voyons donc.
Coupe donc leur micro, là.
Tu sais quoi,
le sens? Bon, ton micro est fermé.
Ton micro est fermé.
Ton micro est fermé,
c'est
bien. Je veux parler.
Ah,
t'es là? Oui. Sylvain joue au hockey dans une ligue de garage. Mm-hmm. OK? Prenez la lutte au Québec aujourd'hui, là, c'est une ligue de garage. OK? Puis dans une équipe de ligue de garage, t'en as qui prennent ça au sérieux.
Ouais.
Qui sont là, qui prendront pas une bière avant la game, puis ils vont s'entraîner dans la semaine, puis ils vont vouloir performer dans leur ligue de garage parce que c'est une passion.
Voilà.
Il y en a comme moi, quand j'ai joué au hockey, ben j'allais jouer au hockey parce que je comptais mes 3 buts par année. Puis ça, c'était dans le warm-up avant
c'est
que le goaler arrive.
C'est ton passe-temps.
Mais aujourd'hui, la lutte au Québec, faut que ça égale passion et non futur argent.
C'est pour ça que j'ai dit l'autre fois, les gens vont jouer à la lutte et ne produisent pas de lutte. Sylvain, attends un petit peu, Pat. Sylvain, hier, il dit, moi, quand je vais jouer au hockey... Je veux être le meilleur sa patinoire, je me considère comme un gars de la Ligue nationale quand, écoute, il est passionné du hockey. Pat, quand il écrit un article, j'imagine qu'il est aussi passionné que n'importe qui. T'as jamais été dans un ring, toi, Pat?
Oh ouais, j'ai quelques combats à ma fiche.
Pour le vrai? Ouais. Je veux voir ça!
Ah, j'espère pas. Paul a peut-être des footage de ça, sinon
la
liste
est
livrée. Ce que j'allais dire, c'est que j'aime ton point, Marc, de comparer.
Bon point.
Non. Mais la différence, par contre, la différence entre une ligue de hockey de garage, un show de lutte.
Un qui a des buts, l'autre vient ring. Ben
non,
oui.
Non, vraiment pas. Et je suis sérieux dans ce que je veux dire. C'est qu'il y en a un des deux qui a des gens qui payent pour voir d'autres personnes performer. Donc, dans la mesure où tu prends pas au sérieux ta ligue de hockey de garage, puis que tu sais, tu prends pas ça au sérieux, puis tu connais une mauvaise partie, ça change rien à part ceux qui jouent avec toi. Tandis que dans la lutte, si t'es pas là, puis si tu performes pas bien, ben il y a du monde qui ont payé pour te voir qui vont être déçus.
Bon,
ben,
et là, moi, là, attends une minute, là. Là, j'ai un point, là. Rapidement. Là, tu viens pour mettre le doigt sur le bobo.
Exact.
Le monde, là, les lutteurs, là, puis c'est pas pour... Ils ont aucune idée. Ils luttent pour se faire plaisir à eux, pour bien paraître eux, pour faire leur move, pour faire plaisir au gars backstage, pour se faire dire qu'il est bon backstage.
Leur blonde
ils se
dans
fout,
la foule.
Leur blonde, leur petite grosse blonde dans la salle. C'est juste pour ça. Parce qu'ils se foutent du spectacle, parce qu'ils savent pas comment donner un spectacle, mais... lors des choses, comment planifier un finish. Ils s'en foutent.
Mais c'est pas ça tout le monde, mais il y en a beaucoup, c'est mais le même. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
Ce que tu dis, Pat, c'est que si t'es promoteur de lutte puis t'es professionnel puis tu sais que les gens payent, t'accepteras pas dans ton ring du monde comme
ça. Et ça, c'est la deuxième moitié du problème. Le gars qui met le lutteur qui est pas entraîné.
Le gars
qui met le lutteur.
Pas vrai,
qui
est, ça,
et je dis lutteur, là, puis il y en a beaucoup qui sont pas, que le terme s'applique pas. Le promoteur est souvent aussi coupable que le gars
plus.
Lui-même.
Ben oui. Encore plus. On va faire gage d'incompétence. Je suis incompétent.
OK, gars.
Ça, je suis d'accord.
C'est pas
toi.
Compliqué. Juste avant de terminer, les gars, avant d'aller à l'entrevue que Marc a faite avec Abyss cet après-midi, ceux qui ne sont pas bookés dans leur propre, dans des shows, qu'est-ce qu'ils font? Ils pondent leur propre fédération.
Hey, attends une minute.
Mais c'est Paul Leduc t'aurait dit que ça se faisait dans les années 50, dans les années 60. Ça s'est toujours fait, ça, par contre.
Oui, mais ça durait pas longtemps. Mais c'est parce que, gars, écoute, là, on a vu un move cette semaine. Là, je parlerai pas de nom. Mais un gars qui était dans un groupe pour une fédération... un switché de fédération, puis c'est booké dans le main event, puis il a tout changé les histoires. Faut-tu être imbécile puis pas connaître la lutte pour faire
mais
ça?
Mais attendez, mais là, ça aussi, historiquement, ça se faisait. Vern Gagné, c'est booké champion
pendant des années.
Puis tu me disais aussi que c'était pas, ça durait pas longtemps. Vince McMahon Senior a quitté la NWA pour partir sa propre business.
Correct, les gars. Écoutez,
c'est pas booké dans le main event.
S'il vous plaît.
Je veux juste amener l'entrevue que j'ai réalisée avec Abyss. Oubliez pas, c'est aujourd'hui Cléopâtre traite Sylvain de dos de babillard. C'est parce que c'est Abyss qu'il l'a passé dans les punaises et on va avoir des détails de cette entrevue-là avec The Monster Abyss.
Eh bien, mesdames, messieurs, au TOW Radio Show, j'ai l'honneur d'avoir Abyss, le monstre Abyss de la TNA Impact avec moi. Abyss, welcome to TOW Radio Show.
Well, thanks for having me on, Mark. I appreciate being here.
Abyss, it's fun to hear your voice. We didn't hear it a lot in the past years. The first questions I had for you, why did you step out or quit with Immortals?
You know, Mark, a couple reasons. You know, I mean, in Abyss, I've always been a guy that needed a crutch and needed somebody to lean on throughout my career, whether it was Jim Mitchell or Goldilocks or Dr. Stevie and now Immortal and Eric Bischoff. And I just got tired of the way I was being treated by Immortal, being taken advantage of by Immortal. And I thought it was time to, for the first time in my career, to be my own man and think for myself and think on my own feet and talk for myself and fend for myself. I got tired of doing everybody else's dirty work and not getting any credit for it.
Alors, je demande à Abyss quelles sont les raisons pour lesquelles il est sorti du groupe Immortel. Il dit, tu sais, Marc, dans ma carrière, que ce soit James Mitchell, Dr. Stevie, il y en a eu d'autres. Il y a eu, bien sûr, Eric Bischoff. Il dit, il y a toujours eu quelqu'un qui était là, puis qui s'occupait de penser pour moi, d'agir pour moi. Puis il dit, là, j'en avais, comme on dit au Québec, plein le casse. Et je voulais moi-même prendre sur moi et de m'occuper moi-même de ma propre destinée. Well, I have to say, Abyss, this is a good news for all the wrestling fans, because I'm sure that you can do a lot better being alone, nobody telling you what to do.
Absolutely. You know, I'm from here on out, I'm going to think, be my own man and think on my own two feet and take responsibility for Abyss for a change, and instead of always relying on somebody else to do it. And I think, that's something that's been coming for a long time. And, you know, Abyss, I'm a smart man, as well as a monster that will destroy you in the ring, but I also have a strong mind, and from here on out, that's what you're going to see.
Alors, il nous dit, je lui disais, je le félicitais, puis je disais que d'après moi, c'était un très bon move, comme on dit, d'y aller de cette façon-là. Il disait, Abyss, c'est un monstre dans le ring, un monstre qui peut détruire les gens, mais il dit également, je suis un homme intelligent et je suis capable de m'en aller dans cette direction-là. Talking about different directions, Abyss, what's your feeling about Robert Roode, how he got the belt and what he did to his best friend or his former best friend, Cowboy James Storm?
You know, I've known Bobby for a long, long time. I've traveled up and down the road with Bobby for years. And, you know, I was pretty taken back and shocked by it. But, you know, what Bobby basically did is Bobby, you know, threw away a lot of tradition. He threw away a friendship. He threw away beer money. He threw away a friendship with James Storm. And most importantly, he threw away the relationship I think he had with the fans. And, you know, he basically, you know, he sold himself out, sold his soul to the devil to get that belt. And, you know, Bobby was willing and is willing to do anything to get it and keep it and retain that belt. And that's what you saw. You saw a changing of the guard, and you saw a change of a man's attitude and his heart. And it was sad to see. It's too bad.
Alors, je demandais à Abyss ses impressions sur ce qui est arrivé avec Robert Roode, ce dernier qui a tourné son dos à son meilleur ou son ex-meilleur ami, Cowboy James Storm. Et Abyss me dit, tu sais, il a vendu, et pour lui, c'est important. Avant, il y avait tout le temps tous les bons côtés, comme je dis souvent, les bons et les méchants. Mais là, il a vendu son âme au diable. Pour lui, c'était plus important d'aller chercher la ceinture que de respecter tout ce qu'il a vécu dans le monde de la lutte des années précédentes. Abyss, talking again about Robert Roode, you know what bugs me is that I really think that he could have got the belt the clean way.
You know, I think he could have too, but, you know, I think he took a shortcut. And he threw away friendships that he had for a lifetime. He threw away the history of beer money, and he threw away his relationship with the fans. I think he could have won the belt by doing it the right way. And I think, unfortunately, he chose to take a shortcut.
Alors, je disais que ce qui m'agace un peu dans le cas de Robert Roode, c'est que je crois que Robert Roode aurait pu gagner le titre en étant de la façon propre, clean. Et ce que nous dit Abyss, ben écoute, il a pris le terme c'est shortcut, un raccourci pour arriver à ses fins. Abyss, probably it's going to help you, but Sting now seems to pull a lot of strings in Impact TNA.
Yes, he does, and that's a good thing. You know, Sting's a leader. He's a true icon, and, you know, this place, TNA, has been running rampant. You know, Immortal and Eric Bischoff, you know, have really left their mark on this company in a bad way, and they were running things and trying to take out Dixie Carter and trying to really turn TNA upside down. So now to have Sting actually have control and have Sting have the power back and Sting making the decisions, you know, it's been great for the company. Sting is making it fair, and he's making it competitive, where everybody has a chance to rise to the top, and Sting's going to make sure that things are done the right way and done fairly, not done the Immortal way.
Alors, pour ceux qui comprennent l'anglais, bien, Abyss qui nous parle de Sting de très, très haute façon, beaucoup de respect envers Sting. Sting va faire en sorte que la compétition, que tout ce qui se passe à Impact TNA va être fait de la bonne façon, et on voit que Abyss a beaucoup, beaucoup confiance en Sting. We can feel, Abyss, that you have a lot of faith in Sting. What can we expect from the monster Abyss, the goals in the next weeks or months?
Well, I'll tell you my immediate goals. My number one immediate goal is I want to get rid of Immortal. I want to be the one that takes Immortal out once and for all, starting at the very bottom with Gunner, then to Steiner, then to Bubba or to Bully Ray, and then on to Eric Bischoff. And I want to be the one that basically I want to give it back to Immortal. I want to make them pay for everything that they did to TNA and everything that they've done to the Monster Abyss, and I'm going to make them pay for it.
Alors, je lui demande, vu que tu as beaucoup confiance en Sting, qu'est-ce qu'on peut s'attendre du monstre Abyss dans les prochaines semaines ou les prochains mois? Il veut tout simplement, c'est clair et net, il veut détruire Immortel, commençant par Gunner, après ça Steiner, Bully Ray et Bischoff. But you know, Abyss, that those guys will never be clean. They'll never be facing you one-on-one. They always will be three or four against you.
And that's fine with me. If that's the way they want it, you know, it is. I'm outnumbered. There's no doubt about it. But I'm going to step up, and I'm going to defend TNA, and I'm going to defend myself. I'm going to defend my pride and being with this company for the last decade. I'm not going to let a mortal put me down anymore. I'm going to take them out. And if it's one on one, great. If it's three on one, then those guys are going to be in for a huge fight, no matter what.
Alors, je lui disais que tu sais comment fonctionne Immortel. Ils se battront pas un contre toi, Abyss. Ils vont y aller à deux, à trois, à quatre contre toi. Puis il dit, écoute, s'ils veulent jouer cette partie-là, il n'y a pas de problème. Je suis prêt pour ça. Et j'ai de l'orgueil. Ça fait plus de 10 ans que je suis avec la compagnie. Et j'ai le goût de m'en débarrasser. If you agree, Abyss, I have a few questions relating your career for all the French, French listeners, because we're on the AM dial, but also very listened everywhere in the world via internet now, okay?
Okay.
Your career, you just said 10 years with TNA Impact. How many years have you been a professional wrestler?
17 years. This coming January will be 17 years.
Alors, je lui demande, ça fait combien d'années que tu luttes professionnellement? Il nous l'avait dit, 10 ans à peu près du côté de TNA Impact, et au total, 17 ans. What's the biggest moment of Abyss in his wrestling career?
I'd say the biggest moment was when I won the TNA World title, which was at the time was the NWA World title back in 2008.
Alors, je lui demande quel était son plus gros moment lorsqu'il était dans sa carrière, son plus gros moment de gloire. C'est lorsqu'en 2008, il a gagné le titre de champion poids lourd.
And being in there with Sting and winning it from Sting too, that was a pretty memorable, probably the greatest moment of my career probably.
Et justement, ben, d'avoir gagné et d'avoir reçu cette ceinture de Sting, c'est tout un moment pour lui. Besides wrestling, Abyss, do you have other passions?
You know, passions, I enjoy the country. I love to fish. I'm a big fisherman. And I just, I like good times with family and friends and hitting the movies and, like I said, hitting the lake in the afternoon, on a Saturday afternoon, and I'm fishing for a few hours. And that's about it, really. I love football, obviously. Go Steelers.
Go Steelers, go. Alors, je lui demande, quelles sont ses passions autres que la lutte? Et Abyss nous dit, sa première passion, c'est la pêche. Il aime beaucoup, beaucoup taquiner le poisson. Il aime aussi également aller du côté du cinéma. Et il aime le football de la NFL. Et vous avez compris que son équipe était les Steelers de Pittsburgh. Abyss, to close this interview, you came to Montreal to TOW,
right.
And I remember that match, and he's my color man with the TNA Impact on RDS, the French show, Sly, and he had the thumbtacks in his back. Do you remember that fight a few years ago in Montreal?
I do remember. How can I forget? I remember it was like in January. It was really cold, and I just remember it being a great crowd and a great building there in Montreal, and getting to work and perform, you know, in front of our international fans in Canada is always an honor and always fun.
Alors, je lui demande si il se souvient. I got the poster in front of me. It was December 27th.
Yeah, I remember it being bitter cold. It was so cold.
So that was two days after Christmas. What a present to have you in the cold weather.
Yeah.
Alors, je lui demande s'il se souvient de ce fameux combat. combat où il avait combattu Sly, Sylvain Grenier, mon analyste, malgré qu'il n'analyse pas grand-chose à télé, et que Sylvain s'était fait lancer dans les punaises, et depuis ce temps-là, ben lorsque les gens le voient en maillot de bain, on l'appelle le babillard, et dit bien oui, je m'en souviens. Pour Abyss, qu'il marque beaucoup de Montréal, c'est le froid. Alors, ça, il s'en souvient, c'était le 27 décembre, là, déjà quelques années. Le temps passe tellement vite. Well, Abyss, I would like to thank you a lot of taking that time for the French listeners in Quebec and via internet in Europe. So we really appreciate your time. That was very kind of you, Abyss.
Oh, thank you very much for having me on, and I'd like to really thank all our French-Canadian fans, too, for supporting TNA and Impact over the last 10 years, and you know, we're excited about the growth internationally and into Canada and French Canadians everywhere. So thank you.
Alors, je disais en terminant à Abyss que je le remerciais de nous avoir donné du temps pour cette entrevue qui a été vraiment complète et vraiment intéressante. Et il nous dit qu'il apprécie beaucoup du côté de la TNA qu'on tente d'augmenter les codes d'écoute partout à travers le monde et que les gens de Montréal, les gens du Québec et même du côté de l'Europe, eh bien, leur support et leur apport à la TNA Impact est très important. Alors, mesdames, messieurs, c'était Abyss à TOW Radio Show.
Sur les ondes de CJLV 1570, c'est l'émission TOW Radio Show, en compagnie de Patrice Baltais et Marc Blondin. Pour nous joindre, faites le 450-680-1570 et de l'extérieur sans frais, 1-866-895-3142.
Voici un message amusant. Le monde de Monsieur Fun est une entreprise qui œuvre dans le domaine de l'animation depuis 1984. Vous êtes à la recherche de services pour vos événements des fêtes de Noël? Que ce soit un DJ, un animateur, soirée thématique, fête d'enfants ou autre, le monde de Monsieur Fun saura vous servir. Il reste encore quelques disponibilités pour la période de Noël, mais faites vite. 1-800-66-LE-FUN, 1-800-665-3386. Le monde de Monsieur Fun au mfun.com.
Vous êtes à 1570 Laval et au 1570.ca.
Le Pink Paradise du 117 boulevard des Laurentides à Laval pour éveiller vos sens. Le bar érotique voté numéro 1 dans la grande région de Montréal vous accueille. Du lundi au vendredi dès midi et le week-end dès 20h. Vous serez comblé de l'ambiance, mais surtout par le charme des demoiselles du Pink Paradise. Jusqu'à 30 demoiselles pour vous chaque soir. Visitez-nous au www.pinkparadise.ca ou encore mieux, une visite au 117 boulevard des Laurentides à Laval et vous serez comblé. Le Pink Paradise, la paire qui vaut le détour. Le Pink Paradise du 117 boulevard des Laurentides à Laval pour éveiller vos sens. Le bar érotique voté numéro 1 dans la grande région de Montréal vous accueille. Du lundi au vendredi dès midi et le week-end dès 20h. Vous serez comblé de l'ambiance, mais surtout par le charme des demoiselles du Pink Paradise. Jusqu'à 30 demoiselles pour vous chaque soir. Visitez-nous au www.pinkparadise.ca ou encore mieux, une visite au 117 boulevard des Laurentides à Laval et vous serez comblé. Le Pink Paradise, la paire qui vaut le détour.
Hi, this is Mr. Anderson. Anderson of Impact Wrestling, and you are listening to the TOW Radio Show.
Ben non, Marc, c'est pas Coco Beware.
Ça, je te voulais dire, c'était pas Coco Beware.
We're back live at TOW Radio Show.
Bon, ben, les choix que j'ai mis moi-même sur la page Facebook du groupe TOW Radio Show. Frankie the Mobster, Kevin Steen, El Generico, Drew Onyx, Darko, Alex Silva, Handsome GF, PCO, Sly, Jake Matthews et Pee-wee, également Lufisto. Marc, je vais te dire, bonne entrevue avec Abyss. Ça fait différent de voir un personnage...
Ou d'entendre.
Ben, de voir comment il parle. Merci Sylvain de me corriger. C'est rare que ça arrive, profites-en. Tu disais tout à l'heure, très accessible.
très, très gentil, très accessible. T'as entendu les promos qu'il a faites pour le temps des fêtes, puis tout ça, puis aucun problème. Comme je dis à chaque fois, la plupart sont comme ça.
À part ceux du Québec.
Puis la différence avec Sly fait des entrevues avec souvent il peut considérer ça comme des amis, ouais. Des gens qui a travaillé.
Pis toi t'as pas d'amis, fait que
ben pas à TNA en tout cas, ouais. Ça c'est sûr, fait que je fais des entrevues avec des gars avec qui j'ai travaillé, mais jamais comme Sly avec, ouais. ses chums.
Sylvain, t'étais en Ontario la semaine dernière,
ouais.
T'as rencontré.
Il devait aller au Mexique mais il est allé en Ontario.
Ouais, c'est ça. Niagara. Petit passe. Détail. Ouais, j'ai passé 3 jours à Niagara. Fret, hein?
Tatanka, Billy Gunn, Val Venus,
X-Pac.
X-Pac était là également.
X-Pac était
il
a
là. Passé?
Brutus, The Barber, Beefcake était là.
Au même show que tu étais.
Oh ouais.
Comment se portent ces vétérans-là?
Bon, super bien. Je les ai ferrés pendant 2 jours.
Ça ne se voit bien qu'ils vont pas bien.
Ils vont pas bien.
Écoute, on a rigolé avec Billy Gunn, puis avec Tatanka, puis on était sur le dos de Val Venus, puis Tatanka, puis on a eu beaucoup, beaucoup de plaisir.
J'ai vu Tatanka dans une entrevue il n'y a pas si longtemps à The Score. Est-ce qu'il a bien vieilli ou bien il a dégonflé un peu? Puis...
Ben, écoute, il est le même mastodonte qui était à WWE. Écoute, j'ai eu un match extraordinaire avec lui devant à peu près 2000 personnes le samedi, puis la veille aussi avec Val Venus devant un autre 1500-2000. Donc la lutte en Ontario va beaucoup mieux qu'ici. Les shows sont un petit peu mieux construits avec un petit peu plus de vedette power. Ça coûte plus cher, mais ça l'attire. Donc,
les billets sont-ils vendus à peu près le même prix?
Oui, les billets, c'est relativement, mais il y a beaucoup de forfaits VIP qui sont vendus à une centaine de personnes. Puis juste ça, ces forfaits VIP-là, à 100 personnes, ben ça l'amène 10 000 piastres. Ça paye bien les gars.
Excuse-moi.
Non, après,
c'est vrai ce que Sylvain dit, parce que moi, je l'ai vu avec Ring of Honor. Quand ROH commençait à faire des shows au Canada, à Toronto, pouvait attirer entre 1500 et 2000 personnes. Ici, on n'a jamais attiré plus que 400 personnes. On a fait 2 shows, en fait, un à 400 et un à 300 quelques. Mm-hmm. Donc oui, le Toronto, présentement, ouais. Pour la lutte est un meilleur marché, et c'est peut-être aussi une des raisons, et là je ramène un débat des dernières semaines, ouais. Pourquoi la WWE vient pas à Montréal ces temps-ci, mais va aller à Toronto.
Les gars, premier commentaire concernant la liste qu'on a mis sur la page de fan, pas le fan, mais W Radio Show.
C'est qui le premier lutteur qui aime pas ça, là?
Ben, le gars, il s'appelle Dave Ricard. En ce moment, à le voir aller, Alex Silva est celui qui se donne le plus dans tous les aspects. Je pousse le plus parce qu'il y a plusieurs S.
C'est bon.
Ce qui veut dire le gym, lutter le plus possible au bon endroit avec du monde d'expérience. Il prend soin de son look. Perso, je lui souhaite d'aller loin parce qu'il travaille pour ce qui lui arrive.
J'en connais pas beaucoup au Québec présentement qui auraient eu le guts de faire ce qu'Alex Silva a fait depuis 2 ans, c'est-à-dire aller à Kentucky, au Kentucky, Louisville, Kentucky.
Ah, le poulet est bon.
Le poulet est bon, mais en plus d'habiter là pendant 6 mois de temps pour justement se donner une chance de se faire voir. Et qu'est-ce que ça l'a donné au bout de 2 ans? Ça l'a donné des TV tapings avec Ring of Honor, ça l'a donné un dark match avec TNA.
Il avec se fait WWE, voir.
Oui, avec la WWE, avec Brodus Clay, c'est tout à fait vrai. J'avais parlé à Jim Cornette, moi, l'année dernière, et il me disait justement qu'il appréciait beaucoup Silva, puis il appréciait aussi sa passion. Puis comme il disait, à un moment donné, il dit, t'as bien beau, si tu veux devenir quelqu'un de gros, d'important, mais faut que tu sortes de ta cour un peu. Puis écoute, chapeau à Alex Silva, ne serait-ce que pour ça, mais aussi des gars comme Pee-wee, Matt Falco, qui vont au moins se donner la peine d'aller prendre des séminaires à Ring of Honor, tandis qu'ici au Québec, Kevin Steen donnait des séminaires, puis il y avait de la misère d'avoir 10 ou 12 personnes certaines fois.
Je veux savoir une affaire, Pat, sont allés faire le séminaire ou ils ont été invités?
Non, ben en fait, il n'y a pas d'invitation, c'est tu t'inscris, tu payes, mais au moins, ils sont donné la peine de conduire pendant 7 heures de temps, aller à Philadelphie, se faire entraîner, c'est un séminaire, donc c'est pas vraiment un entraînement, mais c'est des conseils, des pratiques, tout ça, devant les bons de Ring of Honor, dont Jim Cornette, dont Kevin Kelly, Delirious, qui est le booker, et aussi l'entraîneur de l'école de lutte, donc ça vaut la peine. Là.
Parce que, ben écoute, je veux savoir, Sylvain, c'est quoi la différence, cours de lutte à l'école Sylvain Grenier et séminaire?
Ben je pense que le séminaire, c'est un condensé. tu peux pas toucher à tout. Je pense que si je ferais des séminaires, ça serait, il y a plus de parlotte. Puis t'essayes de rentrer dans la tête des gens, puis c'est ce qui est un petit peu difficile, mais j'en ai donné à quelques reprises, mais c'est parce que il y a tellement de choses, c'est tellement grand qu'est-ce qu'il y a à toucher, puis les gens, tu sais, juste la psychologie, tu peux passer des heures sur la psychologie, puis le monde comprendront pas, c'est pas du jour au lendemain, mais pour les cours de lutte ou quoi que ce soit, écoute, là, tu peux apprendre à un gars de 5 ans à faire une souplesse. Là.
Les séminaires de Ring of Honor, ils demandaient un minimum d'expérience, d'ailleurs. Séminaires, c'est souvent ça. C'est pour des gars qui ont une certaine expérience, mais qui veulent, comme tu disais, Patrice, se perfectionner. Quand c'est un cours de lutte, tu vas partir à la base avec quelqu'un qui sait pas du tout lutter.
Moi, un exemple, j'aime ça d'amener des anecdotes, tu sais. Ouais. Comme tu parles de séminaire, moi, j'ai booké Sylvain Grenier, qui est mon 3e sur ma liste dans TOW, puis je l'ai envoyé donner un séminaire à Saint-Constant dans 50 jours. Il m'a rappelé, il dit « T'es-tu malade? La moyenne, il y avait 4-5 ans, les jeunes! » Ben, j'ai dit « Garde, faut que côté, tu sais, ce que tu as dans ta tête, faut que tu sois capable de le partager. » Puis vous aviez à peu près tout le monde la même mentalité.
C'est bon, c'est
on,
bon.
On est deux qui la trouvent bonne.
Ben écoute, c'est une anecdote, comme t'as dit, c'est toi qui as assez l'anecdote. Les gars,
son entrevue de ferme tes yeux, puis imagine-toi Sly qui arrive donner...
C'était spécial.
Puis ils ont 4, 5, puis 6 ans. Ben, imagine-y juste la face qu'il fait quand il rouvre la porte de la classe. Ça devait valoir une chaise brisée à un party.
C'est exactement devait ça. Se demander, j'espère qu'il y a une fille qui me connaît pas là-dedans. il reste 4 minutes, les gars. Un mot, dernier mot, je vous laisse la parole.
Ben moi, j'aimerais juste dire à la maison, vous êtes welcome d'appeler. Soyez pas gênés. Vous avez des commentaires. Vous avez déjà vu un show près de chez vous. Vous êtes déplacé. Vous avez dépensé de l'argent. Vous étiez content du show. Vous étiez déçu. Appelez-nous. On veut avoir votre feedback parce que nous, on est à l'intérieur de la business ici, mais on veut avoir votre feedback à vous. Lutteur ou pas, là. Mais même si vous êtes des fans, même si vous êtes des managers.
Même Christiane qui est partout.
Non, elle peut pas appeler.
Elle peut pas appeler.
Je vais prêcher pour ma paroisse, mais je voudrais
dire. C'est quoi ta paroisse?
Ouais, c'est Notre-Dame de l'Assomption dans l'Est. Mais je voudrais dire que je sais qu'il y a beaucoup de lutteurs, il y a beaucoup de fans de lutte québécoise qui écoutent l'émission. Et je le sais que là, mes prix de l'année s'en viennent. À chaque année, je fais les prix de l'année avec le top 50, qui est toujours aussi contesté. Puis là, aujourd'hui, on vient de parler de certains des meilleurs lutteurs québécois. Et c'est peut-être pas la liste qu'on va retrouver dans le top 50. Et je veux juste vous dire, la journée qui va sortir, rappelez-moi pas en me disant, ouais, mais c'est pas ça que t'as dit à la radio il y a une couple de semaines. Parce que là, on parlait de lutteurs dans le cadre d'une émission de télévision, tandis que le top 50, ça va être ceux qui ont eu la meilleure année 2011. Et à un moment donné, ben, on laisse faire les différences qu'on parlait tantôt, puis on parle vraiment qu'est-ce que le gars a accompli durant l'année. C'est différent. Je vous avertis d'avance.
Marc?
Ben, TOW Rivière-du-Loup, c'est sur le bord d'être confirmé, fait que ça va être le fun qu'on aille faire un tour là-bas. C'est où, ça? C'est en Ontario?
T'as une minute, là.
Ouais, c'est vrai, on t'en a pas parlé encore.
Ben, c'est parce qu'il m'a appelé cette semaine.
OK, mais je m'excuse, mais si c'est moi le président, c'est mon idée. Tu sais, toi, va jouer au hockey dans 3 minutes, là, puis laisse-moi délier mes affaires. Toi, continue à t'entraîner, pas essayer de prendre ça sérieusement, pas essayer de battre mon champion, Frankie the Mobster.
Oh! Donc,
Coco
Biwa. Ben oui! Juste vous dire, les gars, combien de commentaires qui viennent d'apparaître comme ça.
Apparaître.
Il y a Poto qui vient d'apparaître
Poto,
aussi.
Poto, t'as le temps de t'excuser. Bref, Jean-Jacques Rougeau.
Oui.
Cédric Rougeau.
Oui.
Il y a des gars qui disent, on les voit pas assez.
Ben
ouais,
c'est
ben
vrai.
Sont limités avec.
Sont limités à cause de leur père. Mais pour les avoir vus à l'œuvre à quelques reprises, ce sont deux talents qui feraient l'alignement de n'importe quelle promotion de lutte au Québec.
Ouais.
Et s'il y a deux gars qui ont une chance de passer à cause du nom qu'ils ont, c'est Cédric et Jean-Jacques Rougeau. Je suis tout à fait d'accord.
Parfait. Donc, Pat Laprade, merci beaucoup. Sylvain Grenier, merci beaucoup. Marc, merci beaucoup.
Je vais être en congé la semaine prochaine. C'est JF Kelly qui me remplace.
La légendaire légende fait ses débuts. Merci, Memur. Fesno, merci beaucoup. Pas tôt d'avoir arrivé, trop tard.
photo est arrivée à l'heure de grenier, je comprends pas.
Il reste planté là.
On veut remercier le cinéma de Saint-Eustache de nous avoir diffusé ce soir. C'était le TOW Radio Show.
Hey, on va-tu avoir des passes pour aller à cette cinéma?
Non, on va aller. Il y a des passes pour aller aux toilettes, c'est ça qu'il me dit. TOW Radio Show, c'était le 9e épisode. On se revoit. Non, on se revoit pas. On s'entend la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bye bye.